Qu'est-ce qui fait que des centaines de personnes sortent tous les jours de chez eux avec des pots de peinture, des pinceaux, des escabeaux, des échelles, des bombes, des cordes pour aller peindre? Est-ce qu'une personne saine d'esprit s'est posé cette question et se dit, c'est quoi qui pousse tous ces gens à faire ça, tu vois? Moi, ce que je voulais, c'était ne pas faire une exposition sur le talent pictural des artistes de ce milieu. Ce que je voulais apporter, c'était vraiment l'énergie de la rue. Il n'y avait pas de modèle d'exposition d'art urbain immersive auquel je pouvais me référer. Je suis vraiment parti dans un tunnel qui était noir, noir, noir. Une des mauvaises surprises que j'ai eues dans le parcours de travail, c'est que au printemps 2023, donc un peu plus de 6 mois avant l'exposition, on me dit, écoute Christian, il faut inverser le parcours. Je repense un parcours et je me dis, au fait, tu sais quoi? En fait, on va passer un parcours comme si c'était un smartphone. Et après, la douche froide est arrivée parce que le mur que vous voyez là, au fait, c'est le plus grand en Europe. C'est plus de 400 mètres carrés. Donc là, la HD, ça prend tout un autre sens. Je dirais que si tu étais au poker, le 4K, c'est l'entrée de mise. Donc ça, déjà, ça a été compliqué. C'est-à-dire, c'était la guerre de 14-18. Moi, j'ai vu mon armée se faire ravager. J'ai fait pas mal d'expositions. C'est la première fois qu'à chaque fois que je viens voir l'expo, j'ai les frissons.
Salut tout le monde et bienvenue sur From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. À l'heure du swipe à tout va, de l'éphémère et de la surenchère de contenu, je vous invite à prendre le temps de redonner à la création l'attention et la valeur qu'elle mérite. Je suis Nicolas Billière et à chaque épisode, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste ou d'un créateur pour comprendre comment il donne vie à ses œuvres from scratch. Qu'est-ce qui a motivé son grand saut dans sa discipline? À quel point son parcours a influé sur ses process? Est-ce que le chaos s'invite en permanence dans l'équation? Comment a-t-il réussi à franchir les obstacles les plus difficiles de son évolution? Et quelles questions se pose-t-il encore? Car finalement, l'exploration n'est jamais finie. Dans From Scratch, nous partons ensemble à la découverte de disciplines et de personnalités totalement différentes. Et dans ce grand écart de genre et de gens, on finit par s'apercevoir qu'il y a beaucoup de dénominateurs communs qui peuvent également s'appliquer à notre propre construction. Avant de commencer cet épisode, vous savez à quel point votre soutien est important et donne de la force pour continuer à proposer ce podcast. Donc n'hésitez pas à partager les histoires qui vous touchent, à vous abonner et à mettre un petit commentaire positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez, c'est parti pour tout connaître du process de création de mon nouvel invité, From Scratch. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci d'être au rendez-vous de ce nouvel épisode dans lequel je rentre comme un prince sur le classique Get Down du rappeur Nas. Alors il y a une raison à cela, bien évidemment, au-delà de mon simple kiff perso, c'est que quand je suis venu visiter l'exposition Loading, l'art urbain à l'ère numérique, c'est le premier morceau que j'ai entendu en entrant dans l'immense salle du Grand Palais Immersif de Bastille. Et là, j'ai pris une claque monumentale face à la dimension du mur sur lequel était projeté un film retraçant l'histoire du graffiti et de l'art urbain. Pas n'importe quelle histoire et pas n'importe quel point de vue non plus. Car cette exposition vient aborder un sujet clé sur l'évolution de l'art urbain à l'heure d'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux et des innovations technologiques. Et cette réflexion, elle est portée par son commissaire d'exposition et mon invité du jour, Christian Omodeo. Christian est docteur en histoire de l'art. Tombé dans la marmite de l'art urbain et de la street culture, il a très vite commencé à documenter sa passion en passant par l'écriture de nombreux livres sur le sujet, mais aussi par la collection et la curation d'œuvres. Tant et si bien qu'il a ouvert sa propre librairie, Le Grand Jeu, dans laquelle il rassemble la crème des livres autour de cette culture. Une mine d'or que je vous invite à aller explorer dans le quartier de Belleville ou, si vous n'êtes pas sur Paris, à retrouver sur le net à l'adresse shop.legrandj.eu. Quand je suis ressorti de l'exposition Loading, je n'ai eu qu'une envie, faire un épisode avec Christian pour prolonger le plaisir de l'expérience. Ensemble, nous allons parler des coulisses de cette expo XXL, mais aussi de la vision et des parties pris tranchées de cet activiste de l'art urbain. Et pour que cet épisode reste intemporel, qu'on vienne ou pas à l'expo, qu'en restera-t-il et que faut-il en retenir sur le présent et le futur de l'art urbain? Christian, bienvenue, comment vas-tu ?
Très bien, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation.
Ben merci à toi, c'était pour moi une évidence. Je suis venu ici il y a un mois, je crois, j'étais avec mes enfants. J'ai tout simplement adoré, c'était un super parcours. Et au-delà de l'exposition et d'exposer des œuvres, on sent de suite qu'il y avait un sens à tout ça, qu'il y a une histoire que tu as voulu raconter. C'est ça qu'on va aujourd'hui explorer ensemble. Je souhaite aussi remercier Svetlana qui est juste à côté, Franck et toute l'équipe du Grand Palais Immersif, puisqu'aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on enregistre en plein cœur dans la grande salle. Je crois que c'est une hauteur sous plafond de 24 mètres.
Oui, c'est ça.
Hein, et on a à peu près quoi, 600 mètres carrés rien que sur cette salle.
Un peu plus petite, mais bon, on l'appelle entre nous la cathédrale de béton, pour donner un peu l'idée des dimensions.
Tout à l'heure, j'ai parlé de claque, et c'est quand tu rentres et que tu vois le film. Donc en fait, quand vous rentrez dans l'exposition, il y a un film qui est projeté en 360, et vous prenez ça en fait en pleine figure.
520.
En 520.
Oui, parce qu'en fait, il y a aussi le sol.
C'est vrai, c'est très bien de préciser ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de l'expo, on va parler un petit peu d'autre chose. On va revenir 30 ans en arrière.
La station de métro Louvre a été victime la nuit dernière de taggeurs qui ont recouvert de graffitis les reproductions de statues et de bas-reliefs exposés dans cette station. Note du nettoyage, environ 500 000 francs à la charge de la RATP, donc des usagers contribuables.
Alors œuvre d'art ou barbouillage, vous l'avez entendu, la RATP a choisi son camp et vous êtes peut-être nombreux à penser la même chose. Mais ce qui suit risque de modifier votre regard, car aujourd'hui certains taggeurs ont pignon sur rue. Ils sont même invités à exposer leurs œuvres dans les musées. C'est le cas actuellement au Trocadéro, Gérard Tavera.
Artistes ou pollueurs, l'un et l'autre. Art à part entière ou phénomène socioculturel, discussions sans fin, où finissent les tags, où commencent les graffitis, les chats ont-ils une âme ? Le Musée National des Monuments Français s'en moque. Il héberge généreusement ces pseudo-chats de gouttière français et américains qui préfèrent aujourd'hui les salons à la rue qui les a vus naître.
Alors Christian, les chats ont-ils une âme ? On va commencer avec ça parce que c'est incroyable. Le point de vue qu'avaient à l'époque les médias. Oui. Tout ça a bien sûr évolué, mais voilà, première question d'un point de vue très global, quel chemin a été parcouru par l'art urbain depuis justement 91 les grandes séquences finalement, comment s'est effectué le changement de perception depuis cette époque-là?
Déjà, c'est un changement de taille, c'est-à-dire qu'un phénomène qui concernait uniquement, je dirais quelques centaines, on va dire, d'acteurs, aujourd'hui intercepte des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de personnes à l'échelle planétaire, qui peuvent peindre dans la rue de manière plus ou moins régulière, de manière plus ou moins spontanée, vandale, d'autres diraient. Donc, c'est déjà un changement d'échelle. Puis, il y a eu, je pense, un changement de regard et de perception sur ces pratiques. Tu vois, les passages qu'on écoutait posaient une dichotomie, c'est-à-dire une opposition très claire. Yin, yang, c'est art ou vandalisme. Pour le dire brièvement, cette vision, vraiment, t'es gentil ou t'es méchant, a été posée aux États-Unis avec au début des années 80, ça s'appelait, on a voulu l'appeler la théorie de la vitre brisée, comme si c'était une théorie prouvée, on va dire. Donc cette théorie disait quoi ? Disait que, en fait, dans un quartier, s'il y a une vitre cassée, tu dois la réparer immédiatement parce que si tu la répares pas, au fait, le quartier va se dégrader de plus en plus rapidement. Et donc, c'est cette même logique qui a été apportée au graffiti. C'est-à-dire, s'il y a un tag sur le mur, tu dois immédiatement l'effacer parce que sinon, ça va dégénérer. Et au fait, on s'est rendu compte que c'est pas du tout vrai, on va dire, que cette lecture qui oppose, on va dire, les gentils aux méchants, permet pas d'expliquer cette pratique, ces pratiques, et que finalement il faut laisser plutôt les acteurs de ce milieu s'exprimer, essayer de discuter avec eux et de trouver des solutions adaptées au cas par cas. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas une manière de peindre dans la rue, mais il y en a des dizaines. Tu peux le faire via une association, tu peux le faire via une mairie, tu peux le faire illégalement, tu peux le faire illégalement d'une manière que la police viendra te chercher ou d'une manière que la police ne viendra pas te chercher parce que ce que tu as fait n'est pas si grave que ça. Donc, c'est un bouquet de fleurs qui est beaucoup plus parfumé, plus coloré de ce qu'on pouvait penser.
Tu expliquais dans une interview un fait que peu de gens doivent connaître, c'est qu'au début des années 80, le graffiti était en fait très valorisé. Sur le marché de l'art, il y avait beaucoup de graffiti artistes qui vendaient leurs œuvres à cette époque-là. Et en fait, il y a eu un shift à cause du maire de New York.
Et justement, peut-être que ça correspond un peu à cette théorie-là dont tu parles de la vitre brisée. Je ne sais pas s'il y a un lien.
C'est tout à fait ça.
D'accord.
Robin Hood, t'as ciblé, voilà, vraiment le. Mais effectivement, ce qui s'est passé, c'est que New York avait plein de problèmes qui ne dépendaient pas du graffiti. Il y a le Summer of Sam, c'était une. Le très beau film, mais en fait New York était une ville qui frôlait la faillite, un petit peu comme Detroit plus récemment. Pourquoi cette raison ? Parce qu'au fait, il y a eu un plan d'urbanisme qui a été mis en place dans l'après-guerre, qui prévoyait quoi ? Ben en fait, qui prévoyait que de faire bouger la classe moyenne en dehors de Manhattan, de la mettre dans le New Jersey, par exemple, et tout ça a été mis en place. Magnifiquement d'ailleurs. Le problème, c'est que s'il n'y a plus la classe moyenne, qui paye les impôts locaux ? Donc la ville a commencé à manquer de moyens pour payer la police, les écoles, les frais de santé, les hôpitaux. Et donc la ville a dégringolé peu à peu. Et c'est là que le graffiti est apparu. Comme des fleurs d'ailleurs. Sur un champ de bataille, je pourrais dire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au lieu de se dire, en fait, on a commis un problème, on a commis une erreur en causant ces problèmes, les politiciens ont juste pointé du doigt le graffiti en disant « c'est ça la cause de tous les problèmes qu'on a ». Et on pensait que, le maire de New York, Koch, a pensé qu'en effaçant les graffitis, les problèmes de la ville de New York auraient été résolus. Donc, c'est là que s'est mis en place une politique qu'on appelait de la tolérance zéro, qui faisait que, encore aujourd'hui, si tu mets un sticker dans New York, tu risques, sur un mur, sur un poteau, tu risques de passer quand même ta nuit en garde à vue. Et donc, les frais pour nettoyer le métro ont augmenté de manière exponentielle jusqu'à arriver à la fin des années 80, au fait qu'il n'y a eu plus aucun métro peint qui sortait des entrepôts des trains de New York.
Au début, on parlait beaucoup de graffiti. Aujourd'hui, on parle plus de art urbain, de street art.
Oui.
Pour toi, c'est quoi la distinction ? Juste pour aussi que les gens soient un peu alignés là-dessus, ceux qui nous écoutent. Je sais que toi, tu as une dimension à la fois géographique et une dimension temporelle. Je suis très curieux d'entendre ce point de vue-là.
Non, mais bon, on peut déjà partir simplement. C'est-à-dire le graffiti, qui d'ailleurs, à l'origine, ne s'appelle pas graffiti, mais writing, donc écriture. D'ailleurs, les graffeurs new-yorkais s'appelaient writers et pas graffeurs, graffiti artistes. C'est avant tout un art de la lettre. C'est-à-dire, c'est une étude, c'est le fait de dessiner, d'écrire des lettres, de peindre des lettres plus ou moins élaborées. Alors que, avec, on va dire, le mot valise art urbain, on résume, on va dire, on réunit un nombre de pratiques qui est beaucoup plus important, qui peut aller vers le figuratif, l'abstrait, l'affiche, le pochoir, le muralisme. Donc, c'est un ensemble, on va dire, de choses qui est beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc, je dirais que le graffiti est une culture à part entière qui peut être aussi réintégrée dans l'art urbain, mais à l'intérieur de l'art urbain, il y a plein d'autres pratiques qui sont beaucoup plus variées.
D'accord. Je parlais du fait que tu étais tombé dans la marmite, mais justement, quel a été pour toi le déclencheur ?
Alors, il y a deux choses. Premièrement, élément biographique, moi, j'ai grandi à Rome, en Italie. Qui est une des villes qui, à partir des années 90, ont été le plus massacrées, on va dire. Peu importe si les murs dataient de l'époque romaine, il n'y a que ça dans certains quartiers. Donc, si tu veux écrire sur un mur, tu tagues sur un mur d'Aurélien. Malgré le fait que la ville ait été massacrée dans les années 90, quand j'étais au lycée et au collège, je pense avoir fréquenté un des rares collège et lycée où il n'y avait pas de graffeurs. Donc moi, j'étais plutôt attiré vers ce qui était le rock, le grunge, c'était un peu cette époque. Mais bon, j'avais ça autour de moi. C'est-à-dire, je prenais le bus, je prenais le métro et je voyais le graffiti, on va dire. J'entendais de par...
C'était ton environnement.
Mon environnement et tout ça. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, j'ai quitté Rome pour aller dans une petite ville près de la capitale pour faire mes études, Viterbe. Mais je rentrais à Rome, je dirais pas tous les week-ends, mais très fréquemment. Et avec des amis, on a commencé à travailler, on va dire. Moi, je faisais des études d'histoire de l'art, donc j'aidais des amis qui travaillaient, faisaient des soirées dans des squats, tout ça, à curater, à mettre en place des expositions lors de ces soirées et ces événements. De fil en aiguille, on en est arrivé à la fin des années 2000 à monter le premier festival d'art urbain à Rome et un des premiers dans une grande ville européenne, et avec un budget qui était irrisoire. Je pense qu'on était autour de 15 000 euros.
Ah oui.
Oui, oui, c'est tout ça. Et
dans les 15 cas, il fallait faire venir les artistes. Enfin, il y avait, je veux dire,
il y avait tout. Donc, quand je dis irrisoire, c'était ça.
Ouais.
Et donc, on invite aussi des artistes de Rome, dont le duo Stan et Lex, qui décide de peindre Totti Wolf. Donc, Totti, Francesco Totti, est un footballeur de l'équipe de la Roma. Mmh. C'est pas simplement un
très
footballeur,
fidèle.
C'est le huitième roi de Rome, on l'appelait comme ça. Et on peint ce mur dans le... On peint même pas, c'était des affiches collées sur un mur, parce qu'on n'avait pas l'argent pour la peinture, donc on avait trouvé un escamotage. Et donc, ce mur de taille monumentale était peint dans le quartier de la Garbatella, qui est un quartier où, très romain, où les gens supportaient la Roma et tout ça. Et donc, moi, je vivais déjà à Paris à l'époque, et une amie m'appelle et me dit « Christian, tu peux pas comprendre ce qui est arrivé. Je suis rentré à Rome en avion. J'ai pris un taxi à Fiumicino pour rentrer à la maison. Et pendant qu'on passait sur la route, le chauffeur me dit « Écoutez, madame, je vais faire un détour. » Et au fait, le taxi fait le détour pour lui montrer le mur avec le portrait du capitaine de l'équipe de foot et tout ça. Donc moi, j'évoluais à l'époque à l'Institut National d'Histoire de l'Art, qui est quand même un peu le Real Madrid pour les historiens de l'art, ou en tout cas, je dirais plutôt le PSG pour l'histoire de l'art en France.
Ouais.
Donc je faisais ma thèse de doctorat là-bas, je travaillais avec l'ancien directeur du Louvre, donc j'étais... Et je voyais passer des projets très ambitieux, avec des budgets ambitieux. Et je me dis, c'est quand même incroyable qu'avec 15 000 euros, on arrive à monter ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans tout ça. J'avais déjà commencé à m'y intéresser sérieusement. Mais c'est là, au fait, que le choix de tout plaquer, en quelque sorte, s'est mis en place. Parce que, pour une question très simple, c'est-à-dire, depuis les années 80 en France, mais pas seulement, on part de démocratisation de la culture. Et c'est fabuleux. Mais quand on parle de démocratisation de la culture, c'est quoi ? C'est juste imposer une culture qui est définie par certains aux masses, ou permettre aussi aux masses de porter leur culture et de vérifier en même temps aussi la qualité de ces productions culturelles, qui n'est pas forcément moindre que celle, on va dire, produite dans d'autres contextes.
Mmh.
Et donc, je me suis dit, écoute, c'est là que je veux fourrer mon nez au jeu. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on va dire, mais c'est là, au fait, où un choix qui est de vie, je dirais même politique, s'est fait. On va dire, est-ce que j'ai d'abord essayé, j'ai continué jusqu'à, d'essayer de changer les institutions, on va dire, la manière de penser des institutions, d'abord de l'intérieur et puis de l'extérieur. Et cela m'a apporté ensuite à faire des choix aussi par rapport à ma carrière, qui ne suivent pas forcément une logique carriériste, et que certains ont du mal à comprendre de l'extérieur. Mais voilà, pour moi, c'est assez linéaire.
Mais ça t'a pris aux tripes, en fait. Donc, c'est une sorte de mission.
Ouais.
Comment t'as senti que t'avais cette mission d'un coup et qu'il fallait que tu la défendes? Enfin, c'était une évidence.
Bah écoute, je pense que je suis pas le seul. C'est dans tout ce qui a été la scène hip-hop, je pense que cette question d'être prise aux tripes et de tout plaquer et de décider d'en faire sa vie a dû toucher pas juste un petit cercle de personnes, mais a dû toucher beaucoup de personnes. Et après, si on remonte plus loin dans le temps, je veux dire, si Norman Mailer, qui était un écrivain, journaliste américain assez célèbre, connu pour ses textes sur Marilyn Monroe, par exemple, le combat de boxe entre Ali et Foreman au Kenya, a parlé de graffiti en parlant de « fate of graffiti » en 1974, c'est-à-dire de « foi dans le graffiti », c'est qu'il a vite compris qu'il y a quelque chose, peut-être pas de religieux, mais en tout cas de mystique dans tout ça. Et donc, je pense que j'ai juste été touché aussi par tout ça, comme d'autres. Mais à différence d'autres, je m'y suis accroché et je m'y accroche encore aujourd'hui très méchamment. Quoi. J'ai jamais regretté les choix que j'ai faits. Je ne les regrette pas aujourd'hui. Et je baisse la tête et je fonce droit dans le prochain mur. Quoi. Mais,
Et ta librairie, finalement, le grand jeu, c'est un peu ton arme fatale pour mener à bien ta mission, plus que les expos même.
Écoute, pendant longtemps, je pensais que les expos auraient été un moyen, on va dire, de parler à un grand public. Ben je le pense encore aujourd'hui, mais bon, maintenant j'en ai fait pendant une bonne vingtaine d'années. J'ai toujours eu beaucoup de confiance dans l'écrit, dans les livres. Je me dis que peut-être, aujourd'hui, c'est peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre. En tout cas, je vais pas arrêter de faire des expositions, mais en tout cas, je veux donner beaucoup plus de place, à l'écrit dans ma vie, que ça soit peut-être en écrivant, si j'arrive à trouver le temps, ou en travaillant pour que la librairie Le Grand Jeu puisse devenir un projet de plus en plus grand et ambitieux de ce qu'il est déjà aujourd'hui.
Ta volonté de collectionner, de documenter, c'est un mindset que tu as, de chercheur que tu as depuis le début, ou est-ce que c'est un muscle que tu as travaillé ?
Les deux. C'est à la fois un mindset de chercheur et c'est un muscle que je travaille au quotidien, beaucoup plus d'ailleurs que les autres.
Ouais.
ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a énormément de similitudes entre le travail que fait un historien et le travail que fait un policier, un enquêteur.
Okay.
C'est-à-dire que quand tu commences une enquête historique, tu dois te documenter, tu dois savoir tout ce qui existe autour de ça. Et avec un peu de flair, tu dois, même quand tu t'intéresses au passé, tu dois essayer de recréer, on va dire, les scénarios du crime et de rentrer dans la tête de gens qui, aujourd'hui, n'existent peut-être plus, qui sont morts peut-être parfois depuis des siècles, pour comprendre leur mentalité, leur vision de la vie, leur vision des choses, quand est-ce qu'ils disaient la vérité, quand est-ce qu'ils mentaient, quand est-ce que c'était dans l'entre-deux. Donc voilà, au fait, partir des écrits. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat sur un peintre néoclassique, donc de l'époque de la Révolution française, de Napoléon. Donc, j'ai dû travailler à distance, on va dire. Quand je me suis penché sur le graffiti art urbain, je passais mes journées dans deux des plus grandes bibliothèques du monde, en tout cas pour ce qui est de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la bibliothèque Jacques Doucet de l'Institut national d'histoire de l'art et la Bibliothèque nationale de France. Et je demandais des livres sur n'importe quel sujet artistique, il y en avait. Et quand j'ai commencé à demander des livres sur le graffiti ou l'art urbain, tac, bouton rouge, alarme, très peu de choses. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même. Moi, je commence à fréquenter des artistes, des gens du milieu, je vais chez eux, dans leurs ateliers. Il y a des pans de murs qui sont remplis de magazines, de livres, de papiers en tout cas. Ils sont où ? Voilà. Comment tu fais à travailler sur l'art urbain s'il n'y a pas un fond documentaire te permettant de savoir quand est-ce qu'une exposition a eu lieu, de lire les interviews des gens à l'époque ou plus récemment, voir comment leur point de vue sur les mêmes sujets a pu évoluer. Et donc, vu que il n'y a pas, c'est-à-dire comme le graffiti n'avait pas été considéré de l'art et donc n'était pas, on va dire, dans les musées.
Ou alors des ouvrages, on va dire, mainstream un peu, quoi. Parce qu'il y en avait quand même.
Non, parce que là, c'était vraiment le début des années 2000. Donc, toute la vague d'ouvrages mainstream sur lequel on est enseveli aujourd'hui, qui est sorti.
Ouais, c'est vrai que c'est peut-être plus avec Banksy et tout ça que c'est arrivé.
Voilà, donc tout ça. Bon, alors, heureusement, aujourd'hui, ça a changé. Justement, même parce que ces ouvrages sont mainstream, il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont dans les bibliothèques publiques. Mais bon, après, il y a un autre problème sur les livres qui sont importants et qui ne sortent pas par des biais, classiques qui, du coup, sont ratés par les bibliothèques. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc, en fait, je me suis dit, il n'y a pas ces livres-là ne sont pas dans les bibliothèques. Tu veux t'intéresser à ce sujet, tu n'as qu'à ouvrir ton portefeuille et constituer ta propre bibliothèque.
Un ami qu'on a en commun, que j'ai eu depuis qu'on s'est vu, qui est Tex Lacroix, il m'a dit « Christian, il a des ouvrages hyper pointus, parfois c'est le seul à les avoir en France ou en Europe. C'est quoi le secret, la filière Homo Deo ?»
Déjà, c'est une passion vraiment pour la bibliographie, la bibliophilie. Moi, ce qui me plaît, c'est pas forcément simplement d'avoir le livre, mais de savoir qu'il existe. Il y a un historien de l'art très célèbre italien qui est mort, parce qu'il était âgé, Federico Zeri, qui avait une bibliothèque, mais genre sublime. Et lui disait au fait que parfois, ce qui est important, c'est pas de savoir, c'est pas d'avoir lu un livre, mais de l'avoir et de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, moi, j'ai commencé à constituer une sorte de bibliothèque imaginaire dans ma tête, dans des fichiers Excel, des bases de données internes qui sont un peu mon pain quotidien. Et puis, au fil des années, les gens ont su que moi, je cherchais, que j'étais un peu une plaque tournante pour le deal.
Un digger, comme il y en a qui vont diguer des vinyles. Toi, c'était les bouquins.
C'est ça. Et donc, de fil en aiguille, en fait, maintenant, quand il y a des livres qui sortent, ben, parfois, je le sais longtemps auparavant. Quand ils sortent, les gens me contactent pour savoir si je veux les avoir. Mais après, cela se fait aussi via un travail de... C'est-à-dire, tous les jours, je passe un bon moment, on va dire, à regarder sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, je suis dans des chats de passionnés de livres, que je suis des forums. Et puis, j'ai mes clients aujourd'hui qui parfois arrivent et me disent « Tiens, regarde, j'ai vu qu'il y a ça qui est sorti. Est-ce que tu es au courant ?» et tout ça. Donc, en fait, je centralise tout ça. Mais bon, ça demande un sacré travail, quoi.
Et tu disais quelque chose d'hyper intéressant. Ça ne veut pas dire que donc on les lit tous, mais on sait ce qu'il y a dedans.
Oui, tout à fait. Quand tu as fait une thèse de doctorat, je veux dire, tu as quand même du recul quand tu prends un livre. Mais en fait, c'est déjà de regarder sa structure, c'est-à-dire l'architecture. De voir au fait comment a été pensée la structure du livre, le travail qui a été mis pour développer chaque section, est-ce qu'il y a des notes en bas de page, est-ce que tu parcours tu vois même 3 pages et tu comprends en fait si la personne qui l'a écrit a fait vraiment un travail de fond, si tu veux, presque d'orfèvre, pour vérifier toutes les informations, ou c'est juste quelqu'un qui a piqué les infos à droite à gauche, les a mis ensemble sans vérifier en fait, les données. C'est là où je te disais, au fait, c'est un peu un travail d'enquêteur. C'est-à-dire que tu dois vérifier si le témoin que tu as en face de toi est en train de dire la vérité, s'il est en train de mentir, ou si c'est juste des fantasmes qu'il a dans sa tête, donc il est convaincu de dire la vérité, mais en fait, toi, tu sais qu'il est à côté de la plaque. Donc déjà, tu prends ça, et ça te permet de vérifier, de comprendre en fait le travail qui a été fait par la personne. Et après, tu vois, je te fais un exemple concret. Là, il y a eu il y a un livre très beau qui s'appelle Raptease, qui est fait par un DJ américain, DJ Ross One. Donc, il avait fait le volume 1 il y a quelques années. Sold out, aujourd'hui, il commence à valoir une petite fortune, tant mieux. Il y a quelques mois, il a sorti le volume 2. Donc, c'est un livre qui regroupe à la base sa collection de t-shirts consacrés au rap, mais aussi les casquettes et d'autres goodies. Et donc, en publiant le premier avec sa collection, ensuite, il a eu le deuxième où il a commencé à rassembler d'autres parties de sa collection parce qu'il a continué à acheter. Mais ensuite, il a aussi reçu des informations sur des t-shirts que lui, il avait loupés ou qu'il n'a pas pris d'autres collectionneurs. Et là, au fait, la semaine dernière, je vois qu'il parle de la version japonaise, c'est-à-dire du volume Raptease 2. Des marchands et collectionneurs de t-shirts rap japonais, parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, les japonais avec tout ce qui est la sape, c'est quand même un délire très particulier, pas que avec la sape d'ailleurs. Et donc ils ont sorti un volume 2 en accord avec DJ Ross One, qui est commercialisé uniquement au Japon. Ben, au fait 30 secondes après qu'il ait posté l'info, j'étais déjà dessus, j'étais en contact avec les Japonais. Là, je suis en train de sourcer, voilà, de voir comment faire arriver un peu de stock en Europe.
Tu pistes.
Voilà, c'est ça. Mais au fait, en regardant ce livre-là, tu te rends compte que au fait, ce gars-là, c'est sa passion. Et qu'en même temps, il a une rigueur qui est presque scientifique de chercheur dans la manière d'organiser toutes les informations, de les sourcer, de vérifier les dates, qui a fait quoi, est-ce que c'est un t-shirt originel, est-ce que c'est un bootleg, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, après, tu te fais une idée de la rigueur de la personne. Et donc, tu sais que n'importe quelle chose que ce gars-là droppera, c'est de l'or.
Alors, il y a le libraire, il y a aussi donc le curateur.
Oui.
Alors, curateur, pour beaucoup, c'est un mot cool, mais ça reste flou. Toi, comment tu le définirais? Est-ce qu'on le définit comme un métier? Comment tu expliquerais ce terme-là?
Écoute, il y a plusieurs manières de le faire. Je dirais que il y a la version peut-être plus classique d'un curateur, du moins pour l'art contemporain, c'est quelqu'un qui se lie à des artistes qu'il apprécie particulièrement, qui les accompagne intellectuellement dans leur réflexion, qui les accompagne pratiquement dans la recherche de projets, que ça soit en galerie, dans des musées, dans des fondations, centres d'art, pour organiser des expositions, trouver des pistes, de professionnels pour s'épanouir, grandir, avancer et tout ça. Donc c'est aussi des profils normalement qui jonglent un petit peu entre le milieu public et le milieu privé. Quoique les galeries ne sont pas là juste pour vendre des tableaux, mais sont aussi là pour accompagner des artistes et les accompagner dans leur parcours évolutif. Moi, je venais de la fac. Il ne faut pas oublier ça. Je ne viens pas du monde des musées. Donc, je suis chercheur au plus profond de mon ADN. Et donc, j'ai jamais, on va dire, consolidé des rapports avec des artistes. Moi, ce que je porte, c'est un discours théorique.
Oui, d'ailleurs, tu le dis, hein, tu gardes une certaine distance avec la scène.
Je garde une distance parce que je j'ai pas envie que les gens soient influencés, ou en tout cas pas plus que ça, par ce que je dis ou je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent, arriver et d'une certaine manière réunir tout ça pour donner une lecture de ce qui se passe. Mmh. Alors certains le font via des livres. Moi, je l'ai trouvé plus intéressant, dans une phase de ma carrière, de faire ça sous le format d'exposition, pour partager ça aussi, pas juste avec un petit nombre, mais avec un grand public. Et puis en même temps, pour intervenir dans des dynamiques, on va dire, d'ordre muséal qui étaient en train de se mettre en place. Il y avait plein d'expositions qui voyaient le jour. J'étais pas forcément très d'accord avec un bon nombre de projets que je voyais sortir de terre. Et donc, je me suis dit, il faut on va dire, créer d'autres modèles d'exposition pour permettre aussi au milieu des institutions muséales de voir qu'il n'y a pas une seule manière de faire les expositions d'art urbain. Il y en a d'autres et que, à mon avis, certaines peuvent être plus intéressantes que d'autres. Ce qui fait que j'ai pas consolidé des rapports de longue date avec des artistes. C'est-à-dire que je peux avoir des rapports de longue date au sens humain, mais dans les line-up des expositions que j'ai fait, tu peux trouver, c'est difficile même de retrouver des noms deux fois d'affilée.
Donc on peut être curateur en venant de milieux et de, on va dire, d'histoires différentes. Petit clin d'œil à François Gautré que tu connais, que j'ai reçu donc il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, dans From Scratch, et qui lui a un tout autre parcours. Par contre, ce qui vous lie, c'est justement cette passion, on va dire, pour documenter votre environnement, et a eu les parties de ça. Et ça l'a amené aussi à devenir commissaire d'expo. C'était donc l'expo Hip Hop 360 à la Philharmonie de Paris. Je vous invite à aller écouter d'ailleurs l'épisode avec Jérémier qui est disponible. Donc en fait, curateur, on peut venir de plein d'endroits, de plein de milieux différents.
Ah, tout à fait.
C'est juste un mindset et cette, on va dire, ADN de documentaliste.
Oui, mais pas que. Tu vois, il y a des curateurs qui sont des collectionneurs, par exemple.
Ou collectionneurs.
Il y a des curateurs. Alors, dans le milieu de l'art urbain, il y en a même un peu trop à ma guise. Il y en a beaucoup qui sont des galeristes, si tu veux. Donc, et là, par exemple, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, en fait, le curateur, pour moi, doit être impartiel. Et donc, à partir du moment où tu es galeriste, t'es plus impartial, tu offres une lecture qui est biaisée de l'histoire de ce mouvement, parce que tu auras forcément tendance à mettre en avant les artistes que tu vends dans ta galerie. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est-à-dire, dans le milieu de l'art urbain, en fait, il y a eu un moment où il y avait quasiment que ça. Et c'est là où moi, je tiltais un petit peu. Parce que, en fait, c'est le discours qui était porté finalement par des institutions publiques, qui organisent avec l'argent que les contribuants payent. En fait, c'était un discours qui était un peu biaisé, donc qui correspondait pas à ce qu'a été réellement l'histoire de l'art urbain.
C'est là qu'on va arriver au Vandal Curator.
Ouais.
On y va tout droit. En attendant, petite virgule. Alors, ce que vous entendez là, hein, ça fait partie de la BO de l'exposition. Elle a été réalisée par l'artiste Roque Rivas, compositeur et designer sonore chilien qui réside en France. Moi, ça me donnait envie, tu vois, de mordiller un peu ma lunette là, comme ça, en mode Michel Field. Mais voilà, donc on reparlera bien sûr de Roque, j'imagine, tout à l'heure. On va faire le focus sur l'expo, on va parler de ce terme de Vandal Curator. Avant, juste pour rassurer les auditeurs, on va le faire en faisant en sorte que cet épisode dure dans le temps. Donc on va surtout parler de fond. Je pense que c'est le plus important. Et d'ailleurs, pour la forme, je vous invite à aller dans la description de l'épisode. J'ai mis quelques liens qui vont vous permettre de voir concrètement aussi à quoi ressemble l'exposition. Et bien sûr, sur nos différents comptes Instagram, c'est toujours bien aussi, bien sûr, d'avoir l'image avec le son. Quelques rappels cependant. L'expo est ouverte depuis le 6 décembre et prendra fin le 6 juillet.
Donc, okay.
Ah, ça a été rallongé.
Je pense, oui, il y a une version du dossier
pour
de
moi.
Voilà, ça ferme juste avant les JO.
Ah ben super, donc encore plus de temps pour pouvoir aller la voir et expérimenter. Donc si vous avez l'occasion d'ici là, foncez. C'est au Grand Palais Immersif, dans le quartier de Bastille à Paris. Et il y a aussi plein d'événements organisés autour de l'expo, des cours de danse, des projections. Donc le programme complet est dispo sur le site du Grand Palais. Et Christian va juste ouvrir le bal de cette petite séquence par un nouvel extrait.
En tant qu'historien de l'art, moi j'ai une activité de commissariat d'exposition, et que quand on te demande la chose classique, est-ce que tu peux me faire une exposition sur l'histoire de l'art urbain ? Oui, éventuellement tu peux la faire, tu peux maîtriser tout ça, mais tu sais que de toute manière tu montreras uniquement ton point de vue sur l'histoire de l'art urbain, parce que l'objectivité est quelque chose d'impossible à obtenir.
Alors, on va commencer avec les crédits d'abord, comme il se doit. Cet extrait, vous pouvez le retrouver sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute de podcast. Il s'agit du podcast de Fusy, acteur majeur de la scène graffiti française, et qui lui aussi d'ailleurs fait un gros travail de documentation par ailleurs. Donc voilà, donc cet extrait, ça vient de là. Ça m'a fait beaucoup penser justement à au terme que tu évoquais dans une autre interview de Vandal Curator. Moi j'adore, forcément, c'est ça fait très punchline. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je pense que c'est lié à ce que tu commençais à raconter tout à l'heure.
Oui.
Et aussi beaucoup lié à ce que tu dis dans cet extrait-là.
Partons mettons une base. C'est-à-dire que c'est un milieu qui mérite de raconter son histoire. De raconter lui-même son histoire. Et donc le rôle parfois du commissaire d'exposition doit être, pour ce genre d'exposition historique, c'est pas de donner son point de vue, mais d'accompagner, on va dire, des acteurs de ce milieu et de leur faire raconter leur histoire et de composer tout ça d'une manière que ça puisse que cette histoire puisse apparaître, que les grandes lignes puissent se dessiner, on va dire. Faisons un retour en arrière dans les années 80, en fait. C'est là que qu'a été commise, selon moi, pas une erreur, mais je dirais que l'approche a été mauvaise. C'est-à-dire que le graffiti est apparu à New York. Il a ensuite basculé en galerie, en fait, très rapidement en réalité. Mais ce basculement en galerie s'est opéré à la demande aussi de galeristes blancs, certains européens, certains américains, qui ont vu la possibilité déjà de commercialiser quelque chose qui, à la base, les acteurs ne pensaient pas de le commercialiser, en tout cas de cette manière. Comme ça, mais surtout de manière théorique. Au fait, le graffiti a été inscrit dans une dynamique plus large qui est celui du retour à la peinture, c'est-à-dire dans l'art contemporain, on sortait, on va dire, d'une époque plutôt conceptuelle, et les nouvelles générations d'artistes portaient plutôt un retour à la peinture, au tableau, à la pratique, du chevalet, on va dire. Et le graffiti a été inscrit un peu de force dans cette dynamique de l'art contemporain. Ce qui, pour moi, est compréhensible, mais en même temps, est-ce que ça aurait été plus sain de laisser les graffeurs, en fait, développer, on va dire, leur parcours tel qu'ils l'entendaient, et pas de leur imposer, d'inscrire le graffiti sur toile dans tout ça. Et d'une certaine manière, cette idée que l'art urbain soit la dernière avant-garde du XXe siècle, aujourd'hui, ça a un petit peu disparu des discours, mais c'était encore très, très présent il y a encore 10 ans. Tu peux le retrouver dans des interviews, dans des livres et tout ça. Et donc, c'est là où je tilte. C'est-à-dire, mais pourquoi, au fait, on doit forcément inscrire tout ça, l'art urbain, dans l'art contemporain ? Pourquoi on ne peut pas tout simplement essayer d'analyser ces pratiques artistiques et voir, alors on parle, je disais, de centaines, de milliers d'acteurs, il y a des acteurs qui probablement sont issus du graffiti, sont passés par des écoles de beaux-arts, et aujourd'hui c'est des artistes contemporains qui viennent du graffiti, qui viennent de l'art urbain. Je dirais que tout simplement l'art urbain est un des langages de l'art contemporain, mais il y a d'autres acteurs qui viennent de ce milieu-là et qui ne sont pas du tout intégrés dans les discours qu'on a aujourd'hui, ou qu'on a eu dans les décennies passées, dans le milieu de l'art contemporain. C'est une filière complètement différente, qui porte des discours différents, qui mène une réflexion différente. Et donc, l'incrusté de force dans le milieu de l'art contemporain, c'est là où ça devient problématique. Donc, pour moi, être déjà Vandal Curator, en tout cas, quand j'ai sorti ça, c'était déjà de revendiquer, au fait, la possibilité pour ce milieu d'écrire sa propre histoire, sans forcément être inscrit de force dans le milieu, dans, dans l'art contemporain par des commissaires d'exposition, des galeristes, des collectionneurs qui avaient et qui ont forcément tout intérêt, on va dire, à mettre ça sous la houlette de l'art contemporain. De mon point de vue, l'alternative, c'est de faire vivre l'art urbain un petit peu comme ils le souhaitent.
Donc, c'est ce que tu as voulu faire avec Loading ?
Loading, c'est quelque chose d'un peu différent. Loading, pour moi, en fait, ça a été une réaction à cette idée qu'il faut faire les expositions qui tracent l'histoire de l'art urbain. Ça suffit, non ? Bon, on en a fait beaucoup. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de célébrer l'histoire, c'est bien de raconter l'histoire, mais dans le milieu de l'art urbain, j'ai l'impression que tout se résume finalement à ça. Qu'on fait l'histoire de l'art urbain, l'histoire de l'art urbain, l'histoire de l'art urbain.
Oui, mais, très chronologique. Et...
Voilà, donc ça fait 20 ans qu'on en fait. Je pense qu'aujourd'hui, même la plupart, on va dire, des personnes qui fréquentent les musées ont déjà vu des expositions de ce type, qu'il ne faut pas leur répéter l'histoire, parce que plus ou moins, ils ont les bases. Ils savent, il y a 20 ans, il y a 10 ans, les gens venaient voir des expositions, ils ne savaient pas qui était Banksy. Aujourd'hui, je pense que c'est il y a probablement encore des gens qui ne connaissent pas ce nom, mais je pense que la plupart des gens le connaissent. Donc, en fait, il faut aller outre. Donc, moi, je me suis dit, plutôt que de faire une exposition qui raconte une histoire de l'art urbain, essayons de relire l'histoire de l'art urbain par un biais.
Un regard différent
qui permet de mettre en avant aussi des considérations que moi je portais dans ce cas en tant que commissaire d'exposition, de tisser des parallèles qui permettent peut-être de se rendre compte de certains... spécificité de ce phénomène, de ces pratiques qui n'ont pas suffisamment été mises en avant ou observées ou analysées ces derniers temps.
Et donc, le numérique est arrivé comme une évidence ?
Le numérique est arrivé...
Le rapport au numérique.
Le rapport au numérique, comme tu le vois, c'est pas que c'était une évidence, c'était l'évidence.
Ouais, une nécessité. Gros,
parce que, au fait, ça a été assez rapide. C'est-à-dire, on m'a dit, parce que la discussion avait commencé même avant la pandémie avec la réunion des musées nationaux, et donc, à un certain moment, avec Roy Hamid, qui est le directeur du Grand Palais Immersif, me dit, écoute, on ouvre une nouvelle antenne, ça va être complètement consacré aux expositions immersives. Est-ce que ça peut t'intéresser ? Et moi là,
bingo,
parce que j'étais à fond sur des relectures de textes autour du hacking, de l'histoire de l'informatique, parce que moi j'ai souvent, je fais partie de la génération Napster, pour ceux qui connaissent, donc il y a déjà ça, puis j'ai souvent et longtemps considéré les artistes urbains comme des hackers de l'espace public, et donc je me suis dit, tac,
connexion.
On est dans une exposition où il n'y aura pas d'œuvre physique, où on peut faire quasiment que de montrer que tout est dématérialisé. Donc, fonçons. Et donc, c'est là où je me suis dit, au fait, on peut prendre le biais, on va dire, du rapport des artistes urbains à l'univers du numérique, que ça soit à travers, on va dire, du hardware ou du software, et raconter ça, et voyons ce que ça donne, voyons si ça amène un regard nouveau, si ça permet de dégager des pistes de réflexion aussi nouvelles sur, ce qu'est l'art urbain.
Donc ça, c'est l'idée, on va dire, le thème, ça, c'est toi qui as le déclic.
Oui.
Et donc, tu le proposes au Grand Palais Immersif.
Oui.
Et là, de suite, effectivement, il y a quelque chose qui se dégage de ça. En tout cas, est-ce que tu as été libre un petit peu dans ta façon de séquencer cette exposition ?
Oui, franchement, oui, ça a été vraiment la possibilité de voir une institution qui est habituée à dealer avec, en tout cas, à se confronter avec des chercheurs. Mmh. Et encore aujourd'hui, je tiens encore à remercier chaleureusement Roy Hamid et toute la RMN, le Grand Palais Immersif, pour m'avoir donné carte blanche, parce que je suis très content d'avoir réalisé un projet de ce genre.
C'est sûr que c'est fantastique. Alors, combien de temps ?
Surtout,
oui.
Parce qu'il faut reconnaître que je les ai bien apportés en dehors de leur zone de confort, qui m'ont suivi. Et ça, c'est pas tout le monde le fait.
Donne-nous un exemple. Tu m'obliges à poser la question. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par les amener en dehors de leur zone de confort ? Par rapport à des choix, par rapport à des artistes, par rapport à une façon de raconter l'histoire ?
Exemple concret, cette exposition prend la suite à Paris d'une exposition qui a lieu à l'Hôtel de Ville, qui racontait 60 ans d'art urbain à Paris, avec une démarche très historique, classique, tout ça, qui a bien marché au niveau du public et tout ça. Donc, pourquoi, on va dire, si tu as une piste qui est tracée, tu as un modèle qui marche, pourquoi tu dois l'abandonner pour partir dans une direction qui n'est pas à l'opposé, mais qui est différente. Donc, tu prends déjà des risques de ce point de vue. Donc, ça, c'est première chose. Ensuite, le biais du numérique qui est insolite parce que du coup, tu arrives avec un projet qui n'est ni blanc ni noir. C'est-à-dire, ce n'est pas une exposition d'art urbain, ce n'est pas une exposition sur l'histoire du numérique. C'est un peu des deux. Donc, les publics auxquels tu t'adresses peuvent être plus difficiles à cibler. Et donc, il y a ça. Et puis, last but not least, mis à part une œuvre de caching qui a été réalisée, mais qui, au fait, est confrontée à une vidéo dans laquelle tu vois le processus de performance de création de l'œuvre et des différentes couches qui ont été peintes sur la toile par caching, ben, au fait, dans cette exposition, il n'y a pas d'œuvre produite en atelier et pour le marché.
C'est marrant parce que c'est une quote que j'avais relevée où tu disais justement toutes les expositions d'art urbain se limitent à montrer des productions d'ateliers réalisées par un nombre assez restreint d'artistes issus de ce milieu.
Oui.
Tu vois, c'est marrant, t'abordes ça.
Ouais. Oui.
Ça, c'est une fierté.
Ça, pour moi, oui, franchement, oui. Bah, déjà, il y a une chose, c'est-à-dire que c'est comme un iceberg. C'est-à-dire quand on parle d'art urbain, t'as les artistes qui ont... qui ont basculé en grande partie dans le milieu de l'art contemporain, qui sont des gros noms, que tout le monde, en tout cas, que beaucoup connaissent et qu'on a déjà vu et qui avancent et tout ça. Mais l'art urbain, c'est pas ça. L'art urbain, c'est tout l'iceberg. Donc, au fait, il fallait prendre du recul et montrer, agrandir. L'objectif est montrer que la famille est bien plus nombreuse de ce qu'on pouvait l'imaginer. Ça, c'est une première chose. Et souvent, en fait, ceux qui ne sont pas, on va dire, sur la pointe de l'iceberg, c'est aussi des gens qui peut-être ont une production d'atelier, mais qui n'a pas été reconnue à la même importante ou à la même hauteur, du moins aujourd'hui, comme celle des noms célèbres qu'on connaît tous, quoi. Et puis, il y a aussi de nouvelles générations. Donc, il y a des jeunes qui sont en train d'arriver, qui peut-être un jour feront aussi partie de cette petite élite, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément encore reconnus à cette hauteur. Donc, en fait, je voulais donner un portrait beaucoup plus coloré, beaucoup plus différent. Voilà, et...
D'ailleurs, je trouve que dans le parcours, c'est un peu ce qu'on ressent, ce voyage à travers les générations, parce que quand on arrive, on est quand même embarqué dans... les premiers moments, les premiers instants de la naissance de la culture, quoi. Même si ça évolue au fil du film. Mais c'est vrai que quand on arrive vers la fin de l'exposition, on est plus justement sur ces nouveaux artistes qui apportent une nouvelle vision sur l'art et puis la vie en général. Tiens, d'ailleurs, il est plus très jeune, mais il est quand même encore jeune. Il y a Tyler, The Creator, qui t'a mis une petite quote.
Oui.
Où justement, lui, le mot urbain, ça lui hérisse un peu les poils.
Ben oui, moi aussi d'ailleurs. Mais bon, après, c'est des...
C'est ça qui est terrible, c'est que...
Oui, mais...
On l'utilise, mais pourtant, ça nous hérisse les poils.
Ben en fait, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, on utilise le mot urbain dans le milieu de l'art urbain parce que l'art est fait dans la rue. Là, on parle de productions qui sont réalisées dans la rue.
C'est géographique.
Voilà, donc c'est pour moi, là, je suis tranquille parce que c'est une question qui est avant tout d'ordre géographique, on va dire. Alors que quand on parle de musique urbaine, est-ce que pointe tel art de créateur était... ce qu'il pointait était très juste. Au fait, c'est que c'était une manière que l'industrie musicale, c'est-à-dire les musiques urbaines, était un mot valise que l'industrie musicale avait inventé pour pointer, on va dire, les musiques produites souvent par les Afro-Américains. Donc lui dit, c'est au fait une autre manière d'employer le N-word.
Le N-word.
Et il dit, moi, je suis un musicien pop, je suis un musicien rap, je suis un musicien soul, je suis pas un musicien urbain.
Mais c'est un artiste.
Voilà, tout ça. Donc, alors, dans le milieu de l'art urbain, c'est différent. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était, ne pas faire une exposition sur le talent pictural des artistes de ce milieu. Ce que je voulais apporter, c'était vraiment l'énergie de la rue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des centaines de personnes sortent tous les jours de chez eux avec des pots de peinture, des pinceaux, des escabeaux, des échelles, des bombes, des cordes pour aller peindre légalement ou illégalement dans la rue avec budget ou sans budget. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait, c'est-à-dire, est-ce qu'une personne saine d'esprit s'est posé cette question et se dit, c'est quoi qui pousse tous ces gens à faire ça, tu vois? Et donc, c'est cette énergie-là que ces gens portent dans la rue qui est le cœur névralgique de cette expo.
Now, for my next number, I'd like to return to the Classic.
Revenons sur ton rôle de commissaire d'expo et le, on va dire, ce rôle de chef d'orchestre, puisque finalement t'as été ce chef d'orchestre-là. Comment est-ce que tu as mis tout ça en musique pour entrer un peu dans le process et raconter aux gens comment ça se passe? Je crois que j'avais dit tout à l'heure que pour, par exemple, François Gautré, il s'était passé 3 ans entre le moment où il a été contacté et le moment où l'exposition a émergé. Voilà, toi, est-ce que ça a été un peu la même temporalité? Mais surtout, comment est-ce que tu as séquencé l'expo? Donc, on voit qu'il y a clairement plusieurs sections dans l'expo. Voilà, comment ça a été pensé, tout ça?
Alors, je vous dis d'abord, mettons les sections de côté. On voit l'avancée du chantier et puis on retournera sur les sections. Alors, on n'a pas eu 3 ans, tout simplement parce que le Grand Palais Immersif n'existait pas il y a 3 ans. Il a ouvert en septembre 2022. Donc le problème, c'est déjà ça, c'est-à-dire que la production n'a pas pu partir bien avant la vraie production parce que le lieu n'était pas là. Et puis je dirais même que le Grand Palais Immersif, les équipes, une fois qu'ils se sont appropriés le lieu qui était abandonné depuis 30 ans, donc ils l'ont mis en place, voilà, les projecteurs, tout ça, la vraie exploitation du musée a commencé. En fait, ils ont découvert, ils ont eu plein de surprises bonnes et mauvaises. Moi, par exemple, une des mauvaises surprises que j'ai eues dans le parcours de travail, c'est que au printemps, on va dire 2023, donc un peu plus de 6 mois avant l'exposition, on me dit, écoute Christian, on ne peut pas rentrer par l'entrée et sortir par la sortie, il faut inverser le parcours, parce qu'au fait, les gens qui viennent voir les expositions au Grand Palais Immersif préfèrent voir d'abord la grande salle et puis les autres espaces. Ce que j'entends, mais le problème, c'est que moi, j'avais déjà ficelé. Et donc, D'accord. C'est comme si on te dit, en fait, je veux pas, ce projet-là est magnifique, mais en fait, il faut...
Tes plans initiaux, on sortait par là, par la grande salle?
Oui, tout à fait. Parce qu'au fait, les deux premières expositions, celle sur Venise et celle sur Mucha, on sortait par la grande salle.
D'accord.
J'avais créé un parcours qui était beaucoup plus chronologique que celui qu'on découvre aujourd'hui, où on est plutôt dans un parcours thématique. Mais ça, on y reviendra quand on parlera des sections. Donc ça a été la surprise. Mais bon, écoute, les professionnels doivent savoir gérer.
Et donc c'est une contrainte qui t'oblige à te réinventer.
Ah ouais, mais bon, tu sais que quand on vient dans certains milieux, le fait de se réinventer en freestyle, c'est bon. Donc en fait, je me suis dit, bon, écoute, c'est un nouveau défi. Et là, en fait, on a basculé sur un nouveau défi. Et là, je tiens à rendre hommage, aux équipes du Grand Palais Immersif, parce que tous ces changements, en fait, il a fallu ensuite suivre avec la prod. Et puis, au dialogue que j'ai eu constamment avec Mehdi Mejri de Atlas 5, qui est la société de coproduction. C'est une société, de production de visuels qui a coproduit l'exposition. Et je pense que sans Mehdi, sans les dialogues, les échanges que j'ai eu avec lui, on serait pas là aujourd'hui, parce que, au début, l'idée, on était parti d'images fixes plutôt, et puis très rapidement, j'ai dit non, mais au fait, il faut de la vidéo. Cette énergie de la rue, il faut la rendre. Moi, ce que je voulais montrer, c'était pas les murs finis, moi, ou les trimpants. Moi, ce que je voulais montrer, c'était les artistes à l'œuvre, parce que quand les gens sont dans la rue, ils arrivent et ils voient le mur peint, ils voient pas comment il a été réalisé.
Tu voulais qu'on voit le process aussi.
Le process, parce que c'est dans le process aussi que tu sens beaucoup plus l'énergie que je voulais cette exposition porte.
Je fais une parenthèse sur le film, et notamment, moi, une image qui m'a marqué, c'est quand, je me souviens plus malheureusement du nom des artistes, et sûrement tu vas nous le dire, mais c'est quand il y a ces trains, et tu sais, un peu la Kidulte, là, ils sont en train de...
Les One-Up.
Ouais, de peindre les trains.
Tout défoncé.
Ça, c'est incroyable.
Voilà,
tout à fait. Ça, c'est fou.
One Up, One United Power, c'est un crew berlinois, qui est composé.
C'est les One Up qui font ça aussi?
Ouais, tout à fait.
Ah, c'était sur cette séquence-là?
Oui, c'était la fin de la séquence sur les One Up. Donc,
c'est fou.
Voilà. D'ailleurs, c'est une des vidéos qui n'était pas vraiment sortie sur les réseaux, donc on était content de la voir. Et donc on a commencé par ça, les vidéos et tout ça, et c'est là ensuite où, c'est-à-dire, le problème vrai est arrivé. C'est-à-dire que, moi, j'arrivais aux limites de mon savoir, parce que moi, ce que je pointais, c'était les contenus qui, pour moi, avaient du sens par rapport déjà à ce qui était important dans le milieu, ce que moi je voulais montrer, ce qui faisait sens par rapport aux propos de l'exposition et tout ça. Et donc j'ai commencé à chercher, à diguer à la fois sur Internet, en contact avec les artistes, les réalisateurs. Elle est cool cette vidéo de 2 minutes sur YouTube. Est-ce que tu peux me sortir tous les rushs et me les envoyer ? Ah ouais, mais attends, moi le disque dur, je l'ai, mais il est sur un autre continent parce que là, je suis en 6 mois loin de chez moi.
Ah, okay, d'accord. Galère.
Donc voilà, tout ça. Et puis, on part de gigas, voire de téraoctets de données. Qu'on a commencé à consulter, tu vois, un peu en mode, tu vois, c'était quoi le Orange Mécanique, tu vois, tac, avec les yeux ouverts et papapapa, bombardement.
Ouais.
Et puis de séquencer. Alors là, de la minute 1, 12 à la minute 1, 25, cet extrait-là, il est génial. Donc, et j'expliquais les notes et tout ça sur des fichiers Excel qui n'en finissaient plus.
Parce qu'après, il y a la voice-over. Ça s'est fait après.
Ça s'est fait après. Voilà, oui. Tout à fait. Et après, en fait, la douche froide est arrivée parce que le mur que vous voyez là, avec cet écran, en fait, c'est le plus grand en Europe. Donc, le problème, c'est que...
Oui, alors juste pour que les auditeurs se rendent compte, j'ai pas les dimensions, mais c'est énorme.
C'est plus de 400 mètres carrés.
Ouais.
Donc là, la HD... ça prend tout un autre sens. Parce que je dirais que si tu étais au poker, le 4K, c'est l'entrée de mise. Ouais. Mais on te regarde comme... T'es pas un grand joueur, quoi.
Ouais, donc, comment vous avez solutionné ça, c'est vrai?
4K, 8K, ProRes. Donc ça, déjà, ça a été compliqué. C'est-à-dire, c'était la guerre de 14-18. Moi, j'ai vu mon armée se faire ravager parce qu'il n'y avait pas la résolution... nécessaire. Donc, il a fallu... en fait, c'est comme si tu es presque au cinéma, dans la rédaction d'un script, il a fallu réécrire en fonction des contenus qui avaient la qualité requise pour pouvoir être intégré dans la vidéo, dans la projection. Donc ça, c'est une première chose. Et...
Attends, les gens qui vont venir vont voir le produit fini.
Oui.
Donc pareil, pour montrer le process, l'expliquer. Écrire, remonter, etc. Combien de temps ça t'a pris tout ça? J'imagine que vous n'avez pas les heures, mais...
Non, mais au moins, tu vois, on était vraiment entre le printemps, l'été et l'automne 2023. Mais après, vu qu'on a dû condenser ça en très peu de temps, ça a été des semaines...
Intense, ouais.
Danse.
Ouais.
Voilà, mais après, bon, ça s'est fait. Après, à un certain moment, tu vois, c'est comme dans le cinéma, c'est-à-dire le film, tu le fais pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut savoir lâcher le bébé. Et c'est moi ce que j'ai fait aussi avec Mehdi, avec tous les monteurs, avec les équipes de Superbien qui ont aussi travaillé.
Super bien, mais oui. Un studio que j'aime beaucoup.
Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, j'ai laissé, c'est-à-dire je leur ai laissé aussi apporter leurs touches et leurs choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le discours, les artistes que j'avais retenus, certains extraits sur lesquels je n'ai vraiment pas lâché prise. Et après, c'était à eux de voir aussi parce que c'était comme les pièces d'un puzzle. Au fait, le problème, c'est pas juste avoir les pièces d'un puzzle, c'est les réunir dans le bon ordre. Et après, peut-être parfois, tu avais des pièces qui étaient, une pièce de puzzle qui était fantastique, sauf que à ce moment-là, à ce point-là, elle marchait pas. Donc, il a fallu l'enlever, non pas parce qu'elle était pas de bonne qualité, mais parce qu'en fait, elle cassait complètement la magie, on va dire, de l'histoire. Parce que là, au fait, ce qu'on voulait faire, la chose qui est vraiment importante, c'est qu'on voulait pas sombrer dans le documentaire Arte, même si j'adore les documentaires Arte. C'est-à-dire, on est dans un musée, on voulait mettre en avant le côté artistique, donc on voulait que ça soit à la fois un film qui raconte une histoire, avec une approche documentaire, mais on voulait que ça soit un film artistique. On voulait pas, si tu veux, on voulait que la magie de l'art fasse le gros du travail. Je pense qu'au final, on a réussi. Et donc, c'est là où j'ai aussi accompagné Mehdi et toutes les équipes de Superbien dans le travail où tout a été cousu. Et après, par ça, Roque Rivas, que tu as cité tout à l'heure, qui est le compositeur avec qui on a travaillé, a commencé. Moi, on lui avait donné accès un peu déjà aux rushs qu'on avait sourcés. Et puis, on s'est renvoyé la balle avec un peu le type d'ambiance sonore, parce que le film dure quand même 30 minutes. Donc, il fallait créer un peu une veste qui puisse s'adapter, qui soit pas monotone, qui rende compte aussi de l'évolution sonore, parce qu'on passe des années 70, voire 60, jusqu'aux années 2023. On va dire, il y a des choses qui ont été filmées quasiment quelques semaines avant l'inauguration de l'expo. Donc, il fallait aussi, tu vois, avoir une variation, on va dire, chromatique d'un point de vue des sons. Mm-hmm. Et ça, je pense que Rocky Rivera, c'est là où on voit le talent, parce que il a déjà composé des trames qui ont servi de base aussi pour créer une grille pour le montage. Et puis, une fois que le montage est fini, en un temps vraiment ultra record, il a réussi à... Et c'est voilà. Et puis, bon, chacun de nous, on va dire, a posé un petit peu quelques, on va dire, références sonores, parce que c'est à la fois un travail de composition, mais, tu vois, moi, je lui ai donné deux références qui n'étaient pas les moindres quand même. Je lui ai dit, écoute, Morricone. Voilà, moi, j'ai grandi à Rome, j'ai vu le documentaire sur Ennio Morricone pendant le travail pour l'exposition, et puis Tarantino. Et je lui dis, alors Morricone, pour la capacité qu'il a vraiment de coudre, on va dire, des ambiances sonores, des musiques sur des images, et Tarantino pour la capacité qu'il a d'intégrer des tubes qui, en fait, parfois ne le sont pas, parce que c'est des chansons oubliées, mais dès que tu les sens, ça devient des tubes. Donc voilà ce qui fait qu'au fait que dans l'exposition tu as quand même plusieurs références on a intégré aussi des chansons, moi particulièrement c'était Little Sims, voilà, rappeuse anglaise que j'ai voulu intégrer, et puis chacun a en fait un peu du sien.
Dans quoi vous avez dû puiser, enfin tu vois, les skills dans lesquels vous avez dû puiser, parce que j'imagine que ça a été épuisant déjà, et il a fallu partager, mais aussi beaucoup écouter, et j'imagine beaucoup de résilience pour pouvoir avancer. Toi, c'est quoi les skills que tu as dû mettre en avant, quoi, dans ce périple?
Une capacité, c'est-à-dire encyclopédique de d'observation du matériel, c'est-à-dire une éponge, mais une grosse éponge, et tout regarder, tout. Et surtout pour voir quelles étaient non pas les vidéos intéressantes, mais les extraits des vidéos. C'est vraiment le séquençage par seconde, vraiment donc des heures et des heures, des heures de visionnage. Donc il y avait déjà ça. Et puis la capacité de résumer très rapidement pour en arriver là. Voilà, ça c'est les choses. Puis le dialogue, le laisser faire, voilà, se laisser un peu tomber, laisser aussi travailler, voilà, des équipes plus techniques qui faisaient le travail. Et tu vois, la chose c'est que les expositions immersives n'existent pas depuis 50 ans. Tu vois, moi j'en ai pas fait ça des 120.
Oui, il y a pas 10 000 exemples sur lesquels se baser.
C'était ma première exposition de ce genre, donc j'apprenais un travail, même si j'avais déjà participé à un documentaire. Mais bon, c'était le chantier était quand même bien différent. Et puis surtout, il y avait pas de modèle d'exposition d'art urbain immersive auquel je pouvais me référer, en les regardant, en disant eux ils ont fait ça, les autres là ils ont fait ça, moi voilà je vais composer, je vais faire ça, voilà, je suis vraiment parti dans un tunnel qui était noir, et il a fallu un peu poser tes rimes sans savoir.
Ouais, mais c'est là où aussi super bien tous les autres aussi t'ont accompagné pour ping-ponger avec toi sur quelles seraient les meilleures idées, quelles seraient les meilleures... Tu vois, vous avez créé des ateliers, vous avez créé des zones un peu spécifiques.
Oui, oui.
Ça, c'est un ping-pong à plusieurs.
Oui, ça, c'est vraiment un ping-pong à plusieurs. Et sur certaines choses, moi, je suis resté en retrait. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, toute l'installation pour pouvoir graffer avec la bombe. Moi, j'ai juste... j'ai vu des choses qui étaient assez... pas vraiment de qualité par le passé. Et donc, je leur ai juste dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils m'ont montré ce qu'ils voulaient faire. J'ai validé, on va dire, l'idée. Je trouvais que voilà, ça permettait de pousser vraiment à fond la chose, de permettre aux gens, après avoir vu des gens écrire leur nom, de vivre vraiment l'expérience de prendre une bombe, de choisir ton nom. Parce que moi, ce qui ne m'intéressait pas, ce n'est pas juste donner une bombe à des personnes et leur permettre d'aller sur un mur et peindre n'importe quoi. Tu vois, parce que ça a déjà été fait à maintes reprises. C'est amusant, mais voilà, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de permettre aux gens de vivre l'expérience, de poser leur blase, hein, leur nom ou un blase qu'ils vont se donner, avec un lettrage qui est typique du graffiti. Et au fait, si les graffeurs new-yorkais s'appelaient writers, si on parlait de writing, c'est-à-dire l'acte de l'écriture, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire le fait d'écrire ton nom. Quand un graffeur rencontre un graffeur, il lui demande pas comment tu t'appelles. Il lui demande qu'est-ce que tu écris.
Ouais.
Voilà. Donc, moi, je voulais vraiment rapporter les gens, même de manière très simple, à se demander qu'est-ce que ça veut dire écrire ? Qu'est-ce que ça veut dire écrire ton nom ? Parce qu'il y a presque un acte, on va dire, divin dans le fait d'écrire ton nom. Parce que c'est en écrivant ton nom que tu te définis, que tu définis qui tu es, en tout cas dans le milieu du graffiti, que tu te définis en tant qu'être, en tant que graffeur. Mmh,
donc, l'identité.
L'identité. Donc, tu vois, c'est des choses qui peuvent paraître peut-être un peu un télo, voilà, sur mon nuage, mais je pense que peut-être pas tous les gens qui auront fait ça auront peut-être pris, on va dire, tous les niveaux de lecture de cette installation, qui est assez fan à la base, mais je pense que certains, grâce aussi au cartel qui est posé à côté, avec le texte, ont probablement compris au fait que c'était pas juste un jeu. D'ailleurs, voilà. Est-ce que le jeu est juste une pratique, on va dire, bête, ou est-ce que le jeu peut être quelque chose d'intelligent, ou peut être un grand jeu, tu vois?
Tout à fait.
Voilà.
Oh, voilà. Oh là là, c'est beau, hein. Voilà. Ah, c'est beau. J'aime bien quand on boucle des boucles comme ça, c'est fabuleux. Je vais te faire écouter un extrait d'un artiste que tu connais forcément. Alors, c'est en anglais, tiens, c'est la première fois que je mets un extrait en anglais, mais bon, c'est court et on traduira vite fait pour ceux qui comprennent pas l'anglais.
Graphics I was really into, actually, you know, logos and stuff like that. I was very much driven by that because advertising was very powerful, whether it was in the subway or on television. I always saw it in early age, like products where the, you know, commercialism was a really big thing, pushing products on people. And my friend was like, yeah, but graffiti's like advertising. It's like, yeah, look, we're promoting ourselves, but we don't have a product, we have an identity, and all these kind of things. So early on, I saw something cool about being a graffiti writer.
Donc là, tu as reconnu?
C'est Futura.
Ouais, c'est Futura. C'est Futura. Alors, je raconte rapidement, mais en fait, il disait qu'il était vraiment attiré par le graphisme au début, tout ce qui était graphique et tout ce qui est identité visuelle, et que la publicité à l'époque, qui était présente dans le métro, partout, c'était hyper puissant, et il la voyait partout autour d'eux. Et au final, il se disait que le graffiti, c'était un petit peu comme de la publicité, que ça permettait de faire sa promotion, qu'eux-mêmes avaient un produit, et donc développer, ce qu'on dit tout à l'heure, hein, cette fameuse identité. Et à l'époque, cette identité, on voulait la placarder finalement partout. Et donc, il y avait un truc cool et que finalement, ils se sont construits un petit peu là-dessus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette même volonté, malgré que les générations soient différentes et aient vécu des choses différentes, d'arriver à se montrer et de faire parler d'eux-mêmes et de leur art, tu vois. Donc, il y a à la fois des choses très différentes dans la construction,
oui,
mais dans la finalité, c'est similaire.
Oui.
Tout à l'heure, t'as dit quelque chose d'hyper intéressant. Tu disais que au début, t'avais, on va dire, écrit l'histoire d'une certaine façon, donc il y avait un certain parcours, et que t'as dû changer donc en cours de route parce que voilà, l'entrée n'était plus au même endroit, etc. Donc finalement, c'est la contrainte qui est intervenue, qui t'a fait changer un petit peu ton fusil d'épaule et repenser un petit peu l'expo.
Oui et non, parce qu'au fait, c'est-à-dire. Au début, moi, mon parcours chronologique visait plutôt à mettre en crise les parcours chronologiques. C'est-à-dire que je voulais inscrire, par exemple, en faisant focus sur les graffiti punk d'Amsterdam ou de Madrid, des années 70, pour montrer au fait que le graffiti ne vient pas de New York.
Et Philadelphie et tout ça.
Voilà. Donc, au fait, c'est faire un focus sur les pochoirs et montrer, par exemple, donc il y a un chercheur allemand qui s'appelle Ulrich Blanchet, qui enseigne à l'université d'Heidelberg, qui prépare d'ailleurs là une très très belle exposition sur l'histoire du pochoir, qui montre en fait que la scène du pochoir parisienne a été évidemment importante, Black Le Rat, Jeff, Mystique et pas que, mais qu'il y a eu des pochoiristes qui ont commencé à faire des choses dans la rue au pochoir et qui, en Pologne, en Russie, au Brésil, le nom d'Alex Malauri, par exemple. Et donc, montrer au fait que l'histoire qu'on racontait de l'art urbain, elle marche pas du tout. C'est un pipeau qu'on est en train de se raconter. Alors oui, c'est pas tout n'est pas faux, on va dire. Mais je dirais que dans quelques années, probablement la plupart des manuels d'histoire de l'art sur lesquels on étudie aujourd'hui partiront aux oubliettes parce que c'est les vainqueurs qui ont écrit cette histoire-là et qu'au fait, il y a plein de choses qui se sont passées et qui ont parfois eu un impact, peut-être pas à New York et à Paris, mais qui ont eu un impact majeur dans d'autres, pays, dans d'autres continents, et qu'il faut réinscrire ces pratiques et le parcours de ces artistes dans cette histoire de l'art urbain. Donc, je voulais faire une histoire de l'art urbain qui mette en crise justement cette vision assez occidentale et un peu voilà, sédimentée de l'histoire de l'art urbain. Donc, ça n'a pas été possible. Du coup, j'ai rebasculé sur quelque chose qui était assez différent. Je me suis dit, en fait, souvent, en fait, dans les expositions, tu as un parcours qui est assez linéaire, chronologique ou thématique, mais c'est quelque chose d'assez linéaire. Je t'explique un, puis deux, puis trois, ou je te parle de 1960, puis 1970, puis 1980. Là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais différentes thématiques dont je voulais parler, que l'espace aussi est aussi assez atypique, parce que tu rentres dans, tu as cette grande salle qui est quand même majestueuse et qui occupe non seulement l'espace, mais aussi l'esprit des visiteurs, pas seulement pendant la visite, pendant que tu es dans cette salle, parce qu'en fait, le lieu étant pensé pour être un opéra, en fait, il y a plein de trous. Donc, il y a plein de fenêtres, ce qui fait que même quand tu es dans les autres salles de l'exposition, à la fois d'un point de vue visuel et sonore, la grande salle est très présente.
Oui, tu la revois de nouvel angle, en fait.
Voilà, ça ce qui est même super intéressant, aussi, parce que justement, tu vois les choses d'un autre point de vue.
Ah, mais bien sûr. Et tu parlais tout à l'heure du 520 degrés. Ouais. C'est vrai que quand tu es en haut et que tu vois ces vagues qui viennent sur le sol comme ça, et tu vois même les enfants qui sont en train de jouer avec, mais vu d'en haut, c'est génial, quoi.
J'ouvre et je referme rapidement une parenthèse.
Oui.
Moi, j'ai fait pas mal d'expositions. C'est la première fois qu'à chaque fois que je viens voir l'expo, j'ai les frissons et que je vois des détails que j'avais jamais vus auparavant. Parce que justement, ce côté visuel immersif fait que, au fait, tu vis toujours une expérience différente. Et ça, c'est franchement magique. C'est ça qui me fait beaucoup aimer les expositions immersives quand elles sont bien faites. Mmh. Donc, je referme. Donc, du coup, je me dis, je repense un parcours et je me dis, au fait, tu sais quoi? En fait, on va passer un parcours comme si c'était un smartphone. C'est-à-dire, sur un smartphone, tu n'as pas une suite logique. Tu as des applications. Tu ouvres une appli pour, je sais pas, envoyer des emails. T'as fini, tu refermes, t'ouvres une autre appli pour aller sur un réseau social, tu refermes, t'ouvres une appli parce que t'as besoin de faire de calculs et t'as ta calculette et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un fil logique entre ton usage des applications. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, plutôt que de penser une suite logique, je me suis dit, en fait, on va faire un parcours qui est par application. Et chaque pièce, oui, je dirais qu'on en arrivait à un parcours chronothématique.
Voilà. Ouais, quand même, tu sens une évolution. Hein.
Tu sens une évolution parce que voilà, tu peux pas non plus. Il fallait quand même poser ces applications, selon une certaine séquence. Et finalement, je me suis dit tant qu'à faire, gardons quand même un ordre qui est un peu chronologique. Mais tu vois, par exemple, quand tu sors de la grande salle, il y a un tunnel où il y a quasiment pas de vidéo, juste au fond.
Là, on revient en arrière.
Voilà. Donc là, il y a eu différents discours parce que c'est pas possible de mettre des projecteurs parce que le plafond n'est pas très haut. Mais il y avait peut-être la possibilité de mettre des écrans. Alors là, je me suis dit moi, j'ai un discours que je veux tenir par rapport à l'histoire, vraiment l'histoire avec H majuscule. Et au fait, on sort de la grande salle où pendant 30 minutes, t'en as pris plein la gueule. C'est-à-dire, tu as ton regard. Tes yeux qui sont presque fatigués, tellement t'as vu, j'ai dit, écoute, on va éteindre les écrans. C'est-à-dire, pas d'écran, pas de vidéo. On va juste poser des affiches sur les murs avec des photos d'archives que je vais diguer soigneusement. Et donc, il y a ça. Alors, après, je pourrais te faire un exemple sur Lascaux, mais peut-être on peut le reprendre après. Sur ça, après, tu montes. Donc tu as cette section, on va dire, qui est un peu plus historique, qui pour moi, en fait, c'était un peu l'OCR. C'est-à-dire la stratégie de lecture des documents. Aujourd'hui, tu fais des scans et tu as des logiciels qui lisent les documents du passé et permettent parfois de faire des redécouvertes donc en littérature, en histoire. Voilà, tu sources les datas dans des documents anciens. Donc, c'est ce que j'ai voulu un peu faire. Donc, c'est l'histoire de l'art urbain d'avant. Et je me suis dit, au fait, il y a un travail à faire qui est vraiment de scan de l'ancienne histoire de l'art urbain d'antan. Parce qu'il y a plein de choses qui doivent être redécouvertes encore. Donc après, tu montes et il y a toute la question du graffiti.
Ah, et là, tu arrives avec Bombing the Metaverse.
Voilà.
Là, direct, pouf.
Voilà, tout ça. Donc là, je me suis dit, je voulais quand même faire quelque chose qui était vraiment très centré sur le... sur le côté vraiment sauvage et illégal du graffiti, parce que c'est quelque chose qui manque souvent dans les expositions d'art urbain. Mais en même temps, je me suis dit, il y a le côté gaming et métaverse qui est là. Alors, gaming, pourquoi ? Parce que, bon, là, on commence à y avoir des chercheurs qui mettent leur nez là-dedans, mais bon, les jeux vidéo sont à la fois, les jeux vidéo, non, à partir des années 80, ont souvent intégré des décors peints au graffiti, où il y a eu même des jeux assez rapidement autour vraiment du graffiti, et ça continue aujourd'hui. Donc je voulais mettre en avant, c'est-à-dire signaler, on va dire, au public que l'univers des jeux vidéo a été, on va dire, un des univers numériques dans lequel le graffiti s'est imposé. Donc, monde réel, monde virtuel. En réalité, souvent, ces deux mondes coexistent. Mais il y a aussi un univers, voilà, numérique qui est celui des jeux vidéo dans lequel le graffiti s'est infiltré en même temps qu'il s'est infiltré dans les rues du monde réel. Et puis, bon, aujourd'hui, un peu moins ces derniers temps, mais je veux dire, le métaverse était revenu à l'honneur il y a quelques temps.
Ah oui.
Voilà. et donc justement dans cet univers du gaming, qu'est-ce qui se passe ? Bon, les gens savent pas, par exemple, que sur GTA, on trouve pas tous ne savent pas que tu peux par exemple télécharger des patchs que tu installes et qui te permettent d'avoir des graffitis sur les murs pendant que tu joues au jeu. Alors je sais pas si dans la nouvelle version ça va être le cas, mais en tout cas sur les versions passées c'était ça. Donc la question de dire, bon, à partir du moment où on part dans métaverse où certains personnages de la Silicon Valley nous disent qu'on vivra avec des casques dans des univers complètement numériques, ben je me suis dit, ben en fait, comment vont réagir les graffeurs à ça ? C'est-à-dire, si le public se déplace, on va dire, du monde réel au monde virtuel, comment les graffeurs vont réagir à tout ça ? Donc, on est parti de ces pistes pour imaginer un espèce de jeu vidéo du futur en modalité métaverse. Et puis, on a parlé avec des graffeurs, on a sourcé des photos de leurs graffitis, on les a détourés et on les a incrustés dans des camions, dans des trains, dans des immeubles de ce monde virtuel. Ensuite, on continue, il y a toute une partie qu'on a développée avec Google Arts and Culture autour de la question, on va dire, du mapping, pas au sens de projection sur des immeubles, mais au sens de la cartographie. Parce que Google a été une des premières structures à se poser la question de cartographier la présence de l'art urbain à l'échelle planétaire, et donc à se confronter aussi à la question de définir quelle est la frontière entre ce qui est art urbain et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc à partir de là, on a créé une espèce de borne arcade où tu peux voyager sur la plateforme Google Arts and Culture, un peu avec la même logique de Google Maps. Le jeu, c'est que tu dois arriver à découvrir où sont les murs peints, on va dire un peu en mode labyrinthe. Après, donc, il y a cette section qui te permet de taguer ton propre nom, donc de vivre l'expérience d'écrire le mot de graffiti. Et puis, je termine par la question de l'activisme. Ouvrir une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire être artiste urbain à l'ère des réseaux sociaux.
Et ça, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, dans le magazine de l'expo, tu finis ce magazine par une question sur l'opacité du numérique.
Oui.
Ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, par exemple, avoir 100 000 followers ou 1 million, qu'importe. Mais du coup, tu vas porter du crédit à ces gens-là parce qu'ils ont un nombre conséquent de followers. Alors qu'il y a des gens qui ont tout autant de talent, sinon plus, et qui ont une démarche depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais qui ont que, par exemple, 10 000 followers, mais parce qu'ils n'ont pas mis d'efforts sur les réseaux sociaux, etc. Ou en tout cas, c'est pas dans leur culture. Et parfois, les gens vont porter plus de crédit à ceux qui ont des grosses communautés versus ceux qui ont des plus petites.
Ah bah écoute,
et comment, justement, on arrive à défaire les fils de tout ça et à...
Écoute,
c'est un peu ça, non, que...
Non, tout à fait. Mais oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais faut pas se leurrer. Alors, bon, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des réunions avec des entreprises, des marques qui voulaient faire des opérations street art. Et au fait, bon, le pitch d'entrée, c'était, bon, vous nous ciblez que des artistes qui ont XK de followers en dessous, ça nous intéresse pas. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, bon, j'entends, voilà, mais c'est pas ce qui m'intéresse faire. Donc, il y a déjà ça. Puis bon, tu parles à quelqu'un qui n'a plus de compte Facebook, qui n'a plus, c'est-à-dire, je l'ai parce que sinon je peux pas avoir un compte professionnel pour ma boîte. J'ai un compte Instagram, mais il y a pas de photos. Moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Je les aime de moins en moins, on va dire, alors que j'étais un grand fan d'Internet. Et voilà, j'ai vraiment vécu, on va dire, le rêve d'Internet au début des années, fin des années 90, début des années 2000. L'utopie, on va dire, qui était portée par la Silicon Valley à l'époque. D'ailleurs, je fais un parallèle dans la dernière section entre les street artistes, plus les street artistes que les graffeurs en réalité, parce que street artistes sont souvent plus un message politique, en tout cas affiché, en tout cas d'un point de vue visuel, c'est beaucoup plus lisible, tu vois, que des graffeurs qui peuvent avoir un discours politique en tant qu'acteur, mais c'est moins lisible dans leur production. Et les lanceurs d'alerte. Je voulais terminer par ça parce que pour revenir aussi, redonner d'une certaine manière, montrer déjà que le travail des artistes urbains a évolué. On est passé, je dirais, de... Moi, je fais l'exemple des artistes du début des années 2000. Je prends deux cas assez iconiques qui sont Banksy et Invader. On est dans une mémification, on va dire. L'idée, c'est que tu produis des images dans le monde réel, mais qui, en réalité, ce qui compte, est-ce que c'est l'image ou c'est la photo numérique de cette intervention qui devient un mème et qui circule sur les réseaux sociaux.
En tant que historien de l'art, en tant que curateur et collectionneur et qui a un œil hyper aiguisé, qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, comment tu arrives à défaire justement l'opacité du numérique et à te dire, tiens, là, je suis en présence d'un artiste authentique qui a un vrai talent, qui a une vraie démarche, versus un autre type de profil qui est plus là, on va dire, pour faire de la fame, de l'influence, ou qui a finalement pas trop de profondeur, tu vois, dans ce qu'il propose. Est-ce que tu arrives, tu as des clés pour arriver à démêler?
Oui, mais c'est pas évident, parce qu'au fait, ça implique de changer de logiciel.
Ok.
Voilà, j'emploie un terme numérique. C'est-à-dire que souvent, au fait, on a... En fait, ma génération, moi je suis né en 76, mais tu vois, la génération des années 81, 90, encore 2000, on a souvent opposé le mainstream à l'underground.
Oui.
C'était ça la règle du jeu, tu vois. Si t'es pas, si tu viens pas de l'underground, bah au fait, ta crédibilité en prend un coup, t'es dans le mainstream, c'est que la thune qui t'intéresse, c'est un peu ça.
Oui, on s'est construit là-dessus, c'est vrai.
On s'est construit là-dessus. Et au fait, avec l'arrivée d'Internet, tout ça a basculé. Moi, je le vois avec les jeunes qui fréquentent la librairie, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être underground aujourd'hui, alors que, de toute manière, t'as Internet et avec sur les réseaux sociaux, il suffit que la magie s'opère et tu passes du mec le plus underground ou de la fille la plus underground du monde à être une star planétaire pour des raisons qui parfois t'échappent, quoi. Donc en fait, être underground aujourd'hui veut plus dire la même chose, tu vois. Mais en revanche, moi, j'ai peut-être aussi, en vieillissant, on va dire, je change un peu d'avis, et ce que je regarde, c'est que être bon dans le mainstream, ça veut dire aussi être un très très bon professionnel, parce que tout le monde n'est pas capable d'arriver à certains niveaux déjà. Et donc j'ai déjà beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à le faire. Et après, parce que parmi ceux qui arrivent à le faire, il y a des gens qui pourraient juste dire, tu sais, mon job c'est de chanter, mon job c'est de skater, mon job c'est de peindre des murs. Basta, tu vois, je veux la belle vie, tu vois, je veux m'amuser, je veux profiter, voilà, tout ça. Et malgré cela, il y a des gens qui utilisent au contraire leur notoriété pour porter des discours, tu vois, qui peuvent les mettre en porte-à-faux par rapport à certaines choses, ou en tout cas qui complexifient pas mal leur quotidien. Et donc, le fait d'être mainstream, ça veut pas dire que tu ne vas pas soutenir des causes, ou en tout cas que ton discours va être moins vrai, on va dire, que des gens qui sont dans l'underground. Exactement comme dans l'underground, tu peux avoir des gens, au fait, qui se revendiquent peut-être vrais, et peut-être c'est le cas, mais en tout cas, ce qu'ils portent n'est pas vraiment novateur. Donc, c'est plus une question de registre, pour moi. C'est vraiment, il faut scruter à travers tout ça et appliquer, on va dire, comme je disais, c'est un logiciel différent qu'il faut appliquer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je fais personnellement. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Alors Christian, on approche tout doucement de la conclusion de cet épisode. Une question que tu vas détester pour finir, mais si on ne devait retenir qu'un message de cette exposition, ça serait quoi ? Un message pour le futur, tu vois.
Un message pour le futur ?
Oh. Oui, le message, la question piège. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on conserve de cette exposition ?
Qu'il ne faut pas juste être un observateur. C'est-à-dire que l'art urbain t'apprend à comprendre que tu peux aussi être un acteur, voilà, qu'il ne faut pas être passif, qu'il faut s'activer, qu'il ne faut pas avoir peur de monter sur scène, de prendre le micro, de poser tes rimes, de prendre une bombe, d'essayer de peindre, de faire des choses. Tu vois. C'est ça que j'aime, c'est l'engagement citoyen que transmet, qui est inscrit au plus profond de l'ADN de ces cultures.
Très bien. Si l'expo, elle a une date limite, hein, donc on l'a dit, hein, c'est le 21 juillet. Ta librairie n'en a pas.
Non.
Donc, c'est quoi pour toi les prochains challenges pour Le Grand Jeu ?
Faire de Le Grand Jeu un grand jeu.
D'accord.
Tout simplement. Voilà, j'ai refusé la plupart des autres projets qui me sont arrivés, qui m'ont été proposés. Bon, déjà, cette exposition risque de voyager à travers la planète pendant 5 ans, donc il faudra comprendre comment les énergies que ça va demander de la suivre, si c'est le cas. Première chose. Et seconde chose, au fait, c'est la librairie aujourd'hui, une petite librairie indépendante dans un passage entre rue Saint-Maur, Ménilmontant, Belleville. Maintenant, j'ai envie de, à la fois dans le monde réel, en retail, on va dire, d'avoir de plus en plus de livres, d'accueillir de plus en plus d'artistes, d'éditeurs, d'écrivains, pour parler des livres qu'ils produisent dans le monde réel, d'accueillir des gens qui viennent dans le monde physique à ma rencontre et à la rencontre de mon équipe pour découvrir les livres qu'on a envie de défendre. Et en même temps, sur le monde numérique, parce que moi, c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire, quand j'ai ouvert le shop en ligne, et puis j'ai commencé à voir des gens qui habitaient parfois dans des petits patelins, dans des maisons, tu vois, sur Google Maps, parce que parfois, j'avais des doutes sur l'adresse. Donc, tu vois, j'allais sur Street View pour voir, mais vous habitez où, ces gens-là ? Et tu vois une maison, et autour, il n'y a que de l'herbe et des vaches. Et tu dis, OK, donc c'est ces gens-là que moi, j'aide, tu vois, à avoir accès à la culture.
À la culture.
Et donc, j'ai compris au fait que tout le travail que je fais, tu vois, dans le monde physique, je dois aussi, d'une certaine manière, le retraduire dans le monde numérique. Mais c'est là où les questions que porte aussi cette exposition rentrent en jeu. C'est que je ne veux pas soumettre le travail que je fais à un algorithme défini par quelqu'un assis derrière un ordinateur dans la Silicon Valley. Je refuse. J'ai trop vu ce que pouvait être Internet j'ai trop vécu le rêve d'Internet, l'utopie d'Internet pour me contenter d'un algorithme.
D'un algorithme.
Ouais.
Et dernière question, pour un peu nous transmettre ton knowledge, ton savoir. Tu as rencontré énormément d'artistes et tu as lu énormément de livres. Est-ce qu'il y a un conseil, attention, c'est toujours des questions chaudes ça quand même, est-ce qu'il y a un conseil ou une leçon qui t'a marqué particulièrement et autour de la création et de la recherche d'identité notamment, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, et que tu pourrais nous partager ?
Comme ça à chaud, tu vois, parce qu'en plus j'y réfléchissais avant tout à l'heure, tu vois, un livre qui m'a vraiment permis de commencer à réfléchir à la place des images dans l'espace public d'une manière, et surtout des textes dans l'espace public d'une manière complètement différente, et un essai de Armando Petrucci, qui était un enseignant, il est mort il y a quelques années, qui enseignait paléographie, donc qui est l'étude des textes anciens, à l'école normale de Pise. Et au fait, c'est le livre qui m'a permis Jeux de lettres, ça s'appelle. Il a été republié, traduit en français, republié même il y a quelques années, qui m'a permis de commencer à penser la place des textes et des images dans l'espace public de manière complètement différente. Tu vois, c'est parce que lui, il explique vraiment la coexistence de messages, c'est-à-dire les messages laissés par le pouvoir et les messages laissés par le peuple. La question, par exemple, moi, j'y avais jamais pensé, mais que dans des sociétés qui sont pas alphabétisées, tu vas pas avoir des messages écrits sur les murs, ou en tout cas, tu vas en avoir moins. Donc, toute cette question-là m'a permis vraiment de décloisonner, du coup, de repenser vraiment toute l'approche que j'avais à l'art urbain de manière complètement différente. Et puis, bah, plus récemment, je dirais, il y a un très beau livre qui s'appelle « La cathédrale et le bazar », qui parle de comment, en fait, les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, je dirais, parce que c'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes, se réunissent pour penser leur manière de travailler. Et je dirais que d'un côté, tu as la logique, on va dire, de la cathédrale, qui est celle que tu as un architecte, tu as un plan, et on va dire, si la logique propriétaire des logiciels classiques, c'est-à-dire Microsoft a porté ça pendant longtemps, par exemple, et puis tu as la logique du bazar, qui est celle de dire, ben, en fait, laissons faire les gens, ils ne sont pas bêtes, et ils vont être capables de s'organiser, de construire quand même quelque chose de fabuleux, mais en discutant au jour le jour et en trouvant les solutions et voilà, en faisant grandir la chose. Et ça, c'est la, je dirais, c'est la solution des logiciels open source. Et,
du chaos vient la lumière.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un livre, là aussi, qui est assez daté, mais qui, pour moi, voilà, c'est un essai qui m'a permis vraiment de comprendre, tu vois, qu'aujourd'hui, dans l'art urbain, il y a des gens qui portent un discours de logiciel propriétaire, et il y a un discours qui porte, et il y a des gens qui portent un discours, il y a des artistes qui portent un discours qui est open source.
Open source.
Donc, je dirais que, voilà, en tant que créateur dans ce milieu ou dans d'autres, avant même de commencer à créer, tu dois d'abord définir si ce que tu veux créer, si le logiciel que tu veux toi-même créer est un logiciel propriétaire, ou si c'est un logiciel ouvert.
Ouvert. Est-ce qu'on peut trouver ces livres au Grand Jeu? Dans la librairie.
Alors, Jeu de lettres, j'ai vendu la copie il y a 2 semaines, mais normalement, on l'a en... Voilà. Et La cathédrale et le bazar, à ma connaissance, tu peux télécharger le PDF.
Ah, donc, carrément.
Parce qu'il est open source.
C'est beau. Voilà. Ben, merci. Dernier mot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Un peu de vacances.
Allez, on te le souhaite.
Merci.
Merci, Christian.
Merci à toi.
Bye bye.
Bye.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de 3 semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcasts et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour la DA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.